tous et bienvenue dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur tous les mercredis à 22h30. Pendant une demi-heure, c'est lecture sur Canal B. Vous avez bien entendu, c'est lecture. Pas question d'épiloguer sur la littérature. Ici, on va lire des livres, tourner des pages. Bref, on va vibrer au rythme des belles formules. Pour vous conduire dans cette expédition littéraire hebdomadaire, un lecteur modeste, votre serviteur du soir, Edgar, pour vos beaux yeux, chers auditeurs. Il y a quelques semaines, nous avions lu des extraits du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Je vous propose, ce soir, de redécouvrir ensemble un autre roman jeunesse, L'île au trésor de Stevenson. Un roman que vous n'avez peut-être pas lu, mais que vous connaissez quand même. Vous ne me croyez pas peut-être ? Faisons un test. Si je vous demande d'imaginer un pirate, il y a de fortes chances qu'il soit unijambiste, un perroquet sur l'épaule et une carte au trésor sous le bras. Si vous avez cette représentation, c'est en grande partie du fait de Robert Louis Stevenson et de ce roman « L'île au trésor » publié en 1883. L'écrivain écossais y raconte les aventures du jeune Jim Hawkins, un fils d'aubergiste qui découvre une carte au trésor puis s'en va à l'aventure. Sur le bateau, il rencontre Long John Silver, un homme sympathique et truculent, avec qui il voyage, sans le savoir, en compagnie d'anciens pirates de l'équipage du défunt capitaine Flint, qui aurait jadis caché son immense trésor sur une île déserte et n'aurait laissé qu'une seule carte indiquant son emplacement. Dans ce roman, Stevenson ne glorifie pas la piraterie, bien au contraire, mais il nous questionne. Le monde est-il un meilleur endroit sans le charisme, le charme et l'esprit de ces pirates ? Une question qu'il adressait à ses contemporains en pleine période victorienne, mais qui résonne toujours avec justesse dans notre monde aseptisé, organisé et technologique. Pour notre lecture du jour, je commence au début du roman. Bonne écoute à tous. C'est à la demande du seigneur Trelawney, du docteur Livesey et des autres messieurs que je prends la plume en l'an de grâce 1700. Ils m'ont prié de coucher par écrit tous les détails relatifs à l'île au trésor, du début à la fin, sans rien omettre à l'exception de la position de l'île. Pour la seule raison qu'une partie du trésor s'y trouve encore. Je me reporte donc à l'époque où mon père tenait l'auberge de l'amiral Benbow, en ce jour où le vieux marin basané, au visage entaillé d'une balafre, prit ses quartiers sous notre toit. Je le revois comme si c'était hier, arrivant d'un pas lourd à la porte de l'auberge, suivi par une brouette qui portait son coffre de marin. L'homme était grand, vigoureux et corpulent. Il avait le teint bistre, les cheveux noués en une queue poisseuse qui retombait sur le col d'un habit bleu couvert de taches, des mains rugueuses et couturées, des ongles noirs et cassés, et en travers de la joue, la marque laissée par un sabre d'un blanc sale et livide. Je le revois parcourir des yeux la crique tout en sifflotant, puis de cette voix aiguë et chevrotante qu'il semblait avoir accordée puis brisée en virant au cabestan, il entonna la vieille chanson de marin qu'il devait reprendre si souvent par la suite. « Étions 15 hommes, Oscoff sur mort, Iseo, et une bouteille de rhum. » Ensuite, à l'aide d'un bâton qu'il tenait à la main en forme d'anspect, il frappa à la porte et, à l'arrivée de mon père, réclama avec rudesse un verre de rhum. Dès qu'il fut servi, l'étranger le but lentement, le dégustant en connaisseur, sans cesser pour autant d'observer les falaises et l'enseigne de l'auberge. épatante cette crique, finit-il par dire. Joliment située aussi, cette réserve à Rome. Beaucoup de passages, camarades ? Mon père répondit que non, très peu de passages, si peu que c'en était misère. Eh bien, alors, reprit-il, c'est juste le mouillage qu'il me faut. Hé, l'ami ! Cria-t-il à l'homme qui poussait la brouette. Accoste ici et aide-moi à débarquer mon coffre. Je vais rester un peu ici, poursuiva-t-il. Je suis pas difficile. Du rhum, du lard et des œufs, m'en faut pas plus. Et aussi cette falaise là-haut pour guetter les navires qui passent au large. Comment que vous pourriez m'appeler ? Vous pourriez m'appeler capitaine. Oui, je vois bien ce qui vous tracasse. Tenez. Et il jetera 3 ou 4 pièces d'or sur le pas de la porte. N'aurait qu'à me dire quand elles auront fait leur temps, ajouta-t-il, avec toute la brutalité d'un commandant de navire. Et à la vérité, malgré ses vêtements minables et la grossièreté de ses propos, il n'avait rien d'un homme d'équipage ordinaire. On eût plutôt dit un second, voire un capitaine, habitué à se faire respecter et à cogner dur. L'homme à la brouette nous raconta que la malle-poste l'avait déposé la veille au Royal George, qu'il s'était enquis des auberges situées en bord de mer et qu'entendant dire du bien de la nôtre, je suppose, en apprenant aussi qu'elle était isolée, il l'avait choisie pour s'y installer. Ce fut là tout ce que nous pûmes apprendre sur notre hôte. En temps ordinaire, il était des plus taciturnes. Il passait ses journées à traîner autour de la crique ou sur les falaises, muni d'une longue vue de cuivre, et le soir, il restait assis dans un coin de la salle commune, près du feu, à boire des grogs bien tassés. La plupart du temps, il ne répondait pas quand on lui adressait la parole, mais se contentait de relever brusquement la tête d'un air féroce et de souffler par le nez en imitant l'appel d'une corne de brume. Nous imprîmes bien vite à ne pas le déranger, suivi en cela par nos clients. Chaque jour, au retour de sa promenade, il nous demandait s'il était passé quelques marins sur la route. Nous crûmes d'abord qu'il posait la question parce que la compagnie de ses semblables lui manquait. Mais nous finîmes par comprendre qu'il était plutôt désireux de la fuir. Quand un marin descendait à l'amiral Benbow, comme le faisaient parfois ceux qui gagnaient Bristol par la côte, il épiait en écartant le rideau de la porte avant d'entrer dans la salle. Et tant que le marin restait là, il demeurait muet comme une carpe. Pour moi, en tout cas, il n'y avait rien de mystérieux dans sa conduite, puisqu'il avait fait de moi, en quelque sorte, son confident en m'avouant ses craintes. Un jour, il m'avait entraîné à l'écart, promettant de me remettre une pièce d'argent de 4 pence le premier de chaque mois, si je voulais bien ouvrir grand mes écoutilles et l'avertir dès que je verrais se présenter un marin à une seule jambe. Bien souvent, lorsqu'arrivait le premier du mois et que je lui réclamais mon salaire, il se contentait de souffler par le nez en me foudroyant du regard. Mais la semaine n'était pas écoulée qu'il se ravisait et me remettait la pièce promise en me réitérant l'ordre de veiller au marin à une seule jambe.
Quinze marins se battent du bord, viande là-haut, une bouteille de rhum, à boire et le diable et régler leur sort, viande là-haut. Silver a pris le commandement des marins et vogue la galère. Il tient ses hommes comme il tient le vent. Tout le monde a peur de Lord John Silver. 15 marins se battent du bord. Yop là-haut, une bouteille de rhum. À boire et le diable avait réglé leur sort. Yop là-haut, une bouteille de rhum. Le second du corsaire, le capitaine Flynn en colère, est revenu du royaume des morts pour hanter la cache au trésor. 15 marins sur le bahut du bord. Et hop là-haut, une bouteille de rhum. À boire le diable avait réglé leur sort. Et hop là-haut, une bouteille de rhum. Essaye un peu de contrecarrer. Et tu iras où tant d'autres sont allés. Quelques-uns au vergue, quelques-uns par-dessus bord. Tout le monde pour nourrir les poissons d'abord. 15 marins sur le bahut du bord. Hop là-haut, une bouteille de rhum. À boire le diable et régler leur sort. Hop là-haut, une bouteille de rhum. Tous nous finirons par danser la gigue. La corde court au quai des pendus. Toi, jeune Forrest, et toi, John Merwig. Si près du Zibek, j'en ai le bout tordu. 15 marins sur le bahut du bord. Hop là-haut, une bouteille de rhum. À boire et le diable avait réglé leur sort. Hop là-haut, une bouteille de rhum.
De retour dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur, tous les mercredis à 22h30 sur Canal B 94 MHz. Vous venez d'écouter 15 marins sur le bahut du mort. Chers auditeurs, je vous invite à poursuivre la lecture de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Une seule fois, quelqu'un osa contrarier le capitaine. Ce fut dans les derniers temps, alors que mon pauvre père était déjà très diminué par la maladie qui devait l'emporter. Le docteur Livezey était venu rendre visite au patient en fin d'après-midi. Il avait mangé un morceau que ma mère lui avait préparé et s'était rendu dans la salle pour y fumer sa pipe en attendant qu'on lui ramène son cheval du hameau, car nous n'avions pas d'écurie à l'amiral Benbow. Je l'avais suivi et je me souviens encore avoir été frappé du contraste qu'offrait ce docteur et sa mise impeccable et son air vif, sa perruque poudrée à frimas, ses yeux noirs et brillants et ses manières agréables avec les paysans grossiers et par-dessus tout avec notre énorme et sale épouvantail de pirate aux yeux chassieux assis les deux coudes sur la table cuvant son rhum. Soudain, le capitaine entonna son éternel couplet. Étions 15 hommes sous le coffre du mort. Isséo, Isséo, l'alcool et le diable avaient le bain de tort. Isséo et une bouteille de rhum. Au début, je croyais que ce coffre du mort n'était autre que sa grande malle à l'étage, dans la chambre de devant. Et cette pensée s'était mêlée dans mes cauchemars aux visions du marin à une seule jambe. Mais avec le temps, nous avions cessé de prêter la moindre attention à sa chanson. Ce soir-là, le docteur Livezey était donc le seul à ne pas la connaître et je remarquai tout de suite l'effet désagréable qu'elle eut sur lui. D'un air courroucé, il leva les yeux vers le chanteur avant de poursuivre sa conversation avec Taylor, le vieux jardinier, au sujet d'un nouveau traitement contre les rhumatismes. Entre-temps, à force de chanter, le capitaine était sorti de sa torpeur et il finit par frapper du plat de la main sur la table d'une manière que nous lui connaissions bien. Il réclamait le silence. Aussitôt, toutes les voix se turent, à l'exception de celle du docteur Livezey, qui poursuivit comme si de rien n'était, de sa voix claire et bienveillante, en tirant vivement sur sa pipe tous les deux ou trois mots. Le capitaine le dévisagea un instant avec colère, frappa à nouveau sur la table, le fixa plus furieusement encore et finit par lâcher un effroyable juron « Silence là-bas dans l'entrepont » « Est-ce à moi que ce discours s'adresse, monsieur ?» s'enquit le docteur. Le grossier personnage lui répondit que oui, en jurant de plus belle. « Je n'ai qu'une chose à vous dire, monsieur, » reprit le docteur. C'est que si vous continuez à boire de la sorte, le monde sera bientôt débarrassé d'un fort méchant coquin. » La fureur du vieux marin fut terrible. Il se leva d'un bond, sortit un couteau à cran d'arrêt dont il fit jaillir la lame, puis, le balançant sur la paume de sa main, il fit mine de clouer le docteur au mur. Celui-ci ne broncha même pas. Il continua de lui parler par-dessus son épaule, sur le même ton, d'une voix assez forte pour que toute l'assemblée pût l'entendre. mais parfaitement claire et égale. Si vous ne rangez pas sur le champ votre couteau dans la poche, je vous jure sur l'honneur qu'aux prochaines assises vous serez pendu haut et court. » Ils se défièrent du regard, mais le capitaine capitula bien vite. Il rengaina son arme et reprit sa place en grondant comme un chien battu. « À présent que je sais, monsieur, poursuivit le docteur, que mon district compte un individu de votre espèce, soyez assuré que j'aurai l'œil sur vous jour et nuit. Je ne suis pas seulement docteur, je suis aussi magistrat. Et si j'ai vent de la moindre plainte vous concernant, fût-ce pour une insolence comme celle de ce soir, je prendrai toutes les dispositions pour vous faire arrêter et expulser de chez nous. Tenez-le-vous pour dit. » Le cheval du docteur Livezey arriva peu après, et le de ces derniers. Le cheval du docteur Livezey arriva peu après à la porte, et ce dernier s'en fut. Mais le capitaine se tint tranquille ce soir-là, et de nombreux soirs par la suite.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. » C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure, son homme qui la quitte. La mer c'est son malheur, dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents, foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Cavardi, Pajot, Kersauzon et Riguidel naviguent pas sur des cajots, ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requin.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que... dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me donne un rond de lapin.
De retour dans Contact, vous êtes toujours sur Canal B et vous faites bien. Vous venez d'écouter « Dès que le vent soufflera » de l'immense Renaud. C'est parti pour la troisième et dernière lecture du jour dans les murs de l'amiral Benbow. Peu de temps après cet incident, se produisit le premier des événements mystérieux qui devait enfin nous débarrasser du capitaine, mais non, comme on le verra, de ses affaires. Cet hiver-là fut d'un froid glacial, avec de longues périodes de gel intense et de rudes tempêtes, et, très tôt, nous comprîmes que mon pauvre père aurait peu de chances de revoir le printemps. Son état empirait chaque jour, de sorte que ma mère et moi avions toute la charge de l'auberge sur les bras, et nous étions bien trop occupés pour prêter grande attention à notre hôte encombrant. Ce fut par une froide journée de janvier, de très bon matin, le froid était vif et piquant, le givre blanchissait la crique, les vagues clapotaient doucement sur les galets, le soleil encore bas à l'horizon effleurait à peine la crête des collines et luisait au loin sur la mer. Levé plus tôt qu'à l'ordinaire, le capitaine s'était rendu sur la grève, son coutelas ballant sous les larges basques de son vieil habit bleu, sa lunette de cuivre sous le bras, son tricorne rejeté en arrière. Je revois son haleine flottant comme une fumée dans son sillage, tandis qu'il s'éloignait à grande enjambée. Une dernière fois, je l'entendis renifler alors qu'il disparaissait derrière le gros rocher et de manière indignée, à croire qu'il pensait toujours au docteur Livesey. Ma mère se trouvait en haut avec mon père et je dressais la table pour le petit déjeuner du capitaine lorsque la porte de la salle s'ouvrit et un homme entra que je n'avais jamais vu auparavant. Il avait le teint terreux et lui manquait deux doigts à la main gauche. Bien qu'il portât un coutelas au côté, il ne me fit guère l'effet d'être porté sur la bagarre. Moi qui ne cessais de guetter l'arrivée de marins à une ou deux jambes, je me souviens que celui-ci m'avait intrigué. Il n'avait pas l'allure d'un matelot, et pourtant il portait quand même sur lui l'air du large. Je lui demandai ce qu'il y avait pour son service, et il me réclama du rhum. Mais comme je quittais la salle pour aller en chercher, il s'assit sur une table et me fit signe d'approcher. Je m'arrêtai sur place, ma serviette à la main. « Approche-toi, fiston, » fit-il, « approche-toi donc. » Je fis un pas en avant. « Cette table, elle serait pas des fois pour mon vieux Bill ?» demanda-t-il d'un air mauvais. Je lui répondis que je ne connaissais pas de vieux Bill et que la table était mise pour une personne qui logeait chez nous et se faisait appeler capitaine. Ma parole, ça lui ressemble bien à mon vieux Bill de se faire appeler capitaine, pour sûr. Mon Bill à moi, il a une balafre sur la joue et des manières tout ce qu'il y a de plus plaisant, surtout lorsqu'il a bu. Allons, je te parie que ton capitaine, il a une balafre sur la joue. Et allons, je suis même prêt à parier que c'est à la joue droite. Tu vois, je t'avais bien dit. Alors mon vieux Bill, il est chez vous ou pas ? Je lui répondis qu'il était sorti se promener. De quel côté, fiston ? De quel côté il est sorti ? Je lui indiquai la direction du rocher, ajoutant que le capitaine serait bientôt de retour, et répondit à quelques autres questions également. « Mais c'est mon vieux Bill qui va être rudement content de me revoir. » En prononçant ces mots, son visage prit un aspect pour le moins déplaisant et j'avais mes raisons de penser que l'étranger se trompait à supposer même qu'il pensa vraiment ce qu'il disait. Mais cela ne me regardait en rien, et de toute façon, je ne voyais pas bien ce que je pouvais y faire. L'inconnu demeurait planté dans l'encoignure de la porte, à surveiller des abords de l'auberge comme un chat à l'affût d'une souris. À un moment, je sortis sur la route, mais il me rappela aussitôt, et comme je n'obtempérais pas assez vite à son gré, son visage livide prit une expression horrible, et avec un juron qui me fit sursauter, il m'ordonna de rentrer à l'intérieur. Dès que je me fus exécuté, il reprit ses manières habituelles, mélange de flatterie et de sarcasme, et déclara en me tapotant sur l'épaule que j'étais un bon garçon et qu'il me trouvait fort sympathique. « Moi aussi j'ai un fils, » ajouta-t-il, « qui te ressemble comme deux gouttes d'eau, même que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Moi, ce qui compte le plus avec les mioches, c'est la discipline. La discipline, fiston. Si t'avais navigué avec le vieux Bill, tu le serais pas fait de dire deux fois ça non, mon gars. C'était pas le style de Bill, ni de ses compères. Tiens, leve-la justement, le vieux Bill, avec sa lorgnette sous le bras. Que Dieu le garde, pour sûr. Toi et moi, on va retourner dans la salle, fiston. » Et se planquer derrière la porte pour lui faire une petite surprise à notre vieux Bill. Dieu le garde, encore une fois. Sur ces mots, l'étranger m'entraîna à reculons dans la salle et me plaça derrière lui, dans un coin, de manière à ce que la porte ouverte nous dissimulât tous deux. J'étais, on s'en doute, inquiet et très mal à l'aise, et de constater que l'étranger paraissait lui-même apeuré ajouta encore à mes craintes. Il n'avait dégagé la poignée de son coutelas dont il faisait coulisser la lame dans le fourreau, et tout le temps que dura notre attente, il ne cessa de ravaler sa salive comme s'il avait une grosse boule en travers de la gorge. La lecture est terminée pour aujourd'hui. Si ces quelques pages vous ont plu, L'île au trésor de Stevenson est édité par la maison d'édition Folio Classique. Merci pour votre attention. L'émission est à réécouter, comme d'habitude, en podcast. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et bonne lecture.